C'est un sujet que j'aime beaucoup. L'Église. Et le titre ce matin, Une Église forte, eh bien, c'est censé caractériser les Églises du Seigneur. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse se courber et prier notre grand Dieu avec cette prière pastorale qui touche l'Église locale. Courbons-nous. Notre Père, merci d'avoir conçu un plan de rédemption qui sauve de leur condition des gens indignes et coupables, il les fait entrer dans ton royaume. Ce royaume existe non seulement sous la forme d'un royaume céleste, éternel, il est présent de manière vitale déjà sur la terre. On se réjouit de ce que tu aies décidé de bâtir ton royaume à partir de ton corps. L'Église, chaque membre ayant un rôle important à jouer. Lorsqu'on pense à l'apôtre Paul, on reconnaît les dons, les aptitudes que tu lui as données pour les progrès de ton royaume. Et on est grandement encouragé de savoir que les saintes Écritures honorent ceux qui l'ont aidé. Tu as entouré Paul de gens que nous ne connaîtrions pas s'il n'avait pas nommé ceux qui priaient pour lui, ceux qui l'ont encouragé et ceux qui l'ont assisté dans ton œuvre sublime. Oh, merci Seigneur pour cet exemple montrant les membres du corps de Christ, l'Église, qui travaillent ensemble. On se rappelle que tu n'as pas seulement sauvé des pécheurs, tu les as aussi rassemblés en un corps sous la puissance de ton Esprit Saint pour accomplir tes desseins glorieux. Ta grâce est abondante à tous les égards et nous te bénissons pour l'Évangile et pour ce qu'il apporte, le salut, la libération, la guérison, la santé et l'espérance. Merci de ce que tu trouves ton plaisir en nous et que tu nous unis dans cette merveilleuse réalité appelée le corps de Christ. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous ai dit tantôt que l'Église, c'était un de mes sujets préférés pour la prédication. Ce matin, mon but, c'est de nous encourager. Pas de nous décourager, même si parfois je vais peut-être graffiner un peu, mais de nous encourager à être une Église forte. L'Église locale doit avoir une vision qui s'étend au-delà de ses portes. C'est-à-dire que lorsqu'on sort de l'Église, il faut que ça continue. Ça ne s'arrête pas ici. L'Église doit être impliquée dans sa communauté et dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit être occupé à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand nous nous engageons à suivre Dieu, bien, ce qui arrive, c'est que Dieu ouvre ses portes à l'occasion. Vous avez tous reçu le petit pamphlet. Sinon, faites juste lever vos mains. si vous l'avez pas reçu, avec les notes, vous avez le passage et les écritures du soutien. La question ce matin, c'est qu'est-ce qui rend une Église forte? Qu'est-ce qui fait qu'une Église est forte? On ne peut pas dire que la force d'une Église, c'est parce que le bâtiment il est gros. On ne peut pas dire non plus qu'une Église est forte à cause du nombre de personnes de la congrégation. La seule façon de déterminer la force d'une Église, c'est de chercher ce que Jésus dit être essentiel pour son Église. Après tout, c'est lui qui bâtit son Église. Dans le verset 18 de Matthieu 16, il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Avec un P majuscule. « Et que sur cette pierre, » Pierre, ça veut dire le fondement. Pierre venait de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Sur ce fondement-là, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Christ n'a pas bâti son Église sur Pierre. Pierre, ce n'est pas le premier pape. Christ bâtit son Église sur ce que Pierre venait de dire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand que Jésus a demandé à ses disciples qui il était, ce fut la réponse de Pierre. Christ, loin, celui qui a été choisi, le Fils du Dieu vivant. Et sur cette déclaration de foi-là, Jésus continue à bâtir son Église. Et si cette vérité-là, elle est supprimée, si on prend notre efface là, au ballon du liquid paper, puis on efface cette déclaration de foi-là dans nos Bibles, la fondation de l'Église s'écroule et on devient une institution simplement. Il n'y a plus d'Église. Le Christ est celui qui garde son Église. C'est celui qui la protège, son Église. C'est celui qui fait grandir son Église. Et parce qu'il est omnipotent, ça veut dire ça, tout puissant, toutes les forces du mal ne seront jamais en mesure de détruire son Église. Et lorsqu'on regarde à travers les siècles, tout ce que l'Église a enduré, tout ce que le diable a voulu faire pour détruire l'Église, mais il n'a pas réussi. Et bien que l'Église même a été persécutée, c'est encore pire. Persécutée, on n'a qu'à lire dans Hébreux qu'est-ce qui s'est passé avec les saints. Les saints, c'est nous, hein? À travers l'histoire, et même les portes de l'enfer, nous dit Matthieu 16, 18, ne prévaudront point contre elles. Mais la mort, même la mort, ne peut pas arrêter l'Église de grandir parce que le sang des martyrs fortifie l'Église. Et c'est lorsque l'Église est persécutée. Quand je parle d'Église, donc je parle de nous autres, là. C'est lorsque l'Église est persécutée que l'Église est fortifiée. Le corps de Christ, l'Église, nous, ses membres, on accomplit le travail de Dieu sous son autorité. C'est lui le maître. C'est lui qui guide les événements, c'est lui qui guide les décisions que prend l'Église en fonction de sa volonté conçue dans le ciel. C'est pour ça que ceux qui dirigent l'Église, si on dirige l'Église par nos propres forces, ça va aller nulle part. Il faut y aller selon la volonté de Dieu, de celui qui a bâti ou qui bâtit son Église. Et puisque nous, on fait partie du corps de Christ, on a besoin de comprendre les caractéristiques d'une Église forte. Il y en a beaucoup, mais c'est court. Premièrement, une Église forte, c'est une Église qui a un leadership rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus a donné la tâche aux disciples de faire de toutes les nations des disciples, il savait que ces gens-là, ces disciples-là, n'étaient pas équipés pour faire le travail. Et c'est pourquoi il leur a dit, « Restez à Jérusalem. Attendez que le Paraclès, le Saint-Esprit, vous remplisse et vous rende capable d'accomplir cette mission-là. » Si on essaye d'aller à travers le monde entier pour évangéliser sans l'aide du Saint-Esprit, on va faire patate. Et de la même manière, aucun membre de cette Église-ci est adéquat pour le travail que Dieu nous a appelés à faire, à moins qu'on laisse l'Esprit-Saint agir en nous. On l'a reçu, le Saint-Esprit, à notre nouvelle naissance. Il n'y a personne ici qui est sauvé qui peut dire, « Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit encore. » Non! À ta nouvelle naissance, tu l'as reçu. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne laisse pas agir en nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la direction divine. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la capacité pour accomplir le plan de Dieu. Deuxièmement, une Église forte, ça prend des messages, des prédications doctrinalement saines qui répondent aux besoins de l'Assemblée. Vous savez, être doctrinalement sain, ça veut dire que les croyances de l'Église proviennent de la parole de Dieu. Et que l'enseignement n'est pas une question d'opinion, pas une question de préférence. Hein? Vous ne m'entendrez pas dire ça. Selon Denis Arcand, je préfère prêcher ces sujets-là. Hein, je vous l'ai dit quelques semaines passées, moi, prêcher sur les offrandes, ça me chatouille un petit peu, mais c'est important de le faire. Donc, je ne choisis pas des textes que nécessairement je préfère. Je ne prêche pas selon mes sentiments. Hein, ce n'est pas une question de feeling. Mais c'est un enseignement qui est basé sur la vérité de la Bible. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on doit tous être d'accord sur l'interprétation de chaque passage. Oui, il y a des différences. Il y a des bons chrétiens qui ne pensent pas comme moi. Puis moi, ben, je ne pense pas comme des bons, tout le temps comme des bons chrétiens. La Bible est sujette, oui, à des interprétations. Il faut faire attention. Et je vais dire, comme un de mes anciens pasteurs m'a déjà dit, il faut chercher à ce qui nous unit, pas à ce qui nous divise. Personne n'a une clarté absolue sur chaque question. Mais il y a assez de vérité dans la parole de Dieu révélée sur lesquelles on peut tous être d'accord. Troisièmement, une Église forte, une Église qui a des convictions. sans compromis. On vit dans un monde rempli de compromis. Une Église forte est composée de personnes avec des convictions inébranlables, de personnes qui n'ont pas peur de s'opposer à l'opinion publique. Je ne veux pas dire par là d'aller marcher avec des pancartes, ça, je suis contre ça. Mais on peut faire des pétitions dans le but de défendre la vérité inébranlable de la parole de Dieu. Il ne faut pas faire de compromis avec l'avortement. Il ne faut pas faire de compromis avec plusieurs sujets dans la parole. Il faut croire ce que la parole de Dieu dit, puis il faut être certain de l'affirmer. Une Église forte, c'est une Église, quatrièmement, qui insiste sur la foi et la prière. Quand l'Église a des membres qui sont remplis de foi et de fidélité à la prière, eh bien, le pouvoir du Saint-Esprit encourage et fortifie cette Église-là. C'est pourquoi on doit cultiver l'habitude de prier en commençant nos journées avec la parole de Dieu et avec la prière. Vous savez, je ne suis pas là chez vous pour checker si vous priez ou si vous ne priez pas. Mais le pouls que j'ai de l'Église, c'est que lorsqu'on fait une rencontre de prière les mardis soirs, ça n'intéresse pas grand monde. Pourtant, des fois, on va se déplacer pour toutes sortes d'activités. Mais le mardi soir, ce n'est pas important. On ne grandira jamais, frères et sœurs, si on n'est pas une église à genoux en train de prier. Oui, il y en a qui vont me dire, je prie à la maison. Fine, gloire à Dieu pour ça. Mais l'Église unie, et vous regarderez dans les actes, les gens ensemble, l'Église ensemble priait. Pas pour savoir c'est quoi le problème d'un puis de l'autre. Pour glorifier Dieu, pour dire merci à Dieu. Et oui, s'il y a des requêtes, sans connaître les détails au complet, on va les prendre en note et durant le reste de la semaine, on va implorer notre grand Dieu. Le Seigneur Jésus se retirait aussi pour prier. Prier seul, c'est aussi un encouragement que je veux adresser à tout le monde. C'est des temps de tranquillité avec le Seigneur. Et c'est de cette façon-là qu'on va développer une relation avec lui. Hein, on a un Dieu personnel. Et on doit avoir ou cultiver une relation avec notre grand Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là que le Seigneur nous donne ses conseils. Il nous enseigne quoi faire, quelles décisions prendre, où aller, comment vivre. On apprend aussi à marcher par la foi. On apprend à croire que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai. Cependant, si on néglige notre relation avec lui, on va faire comme un bateau, on va dériver. Parce que notre esprit puis notre cœur ne sera pas en phase avec lui. Cinquièmement, une église forte, c'est une église qui a des services du dimanche qui permettent de connaître la présence de Dieu et de renouveler notre engagement à lui obéir et à le servir. Vous savez, les dimanches matins sont un temps pour se réunir avec d'autres chrétiens. On a la mauvaise habitude d'arriver à la dernière minute parce qu'on ne veut pas parler à personne. Je ne sais pas. On ne veut pas avoir un temps de communion avec personne, puis quand le culte est fini, bye, on est parti. C'est un temps privilégié. On est encore libre de se réunir librement, sans contrainte. C'est un temps pour qu'on puisse concentrer notre attention, c'est-à-dire sur le Seigneur et sur sa parole. Dans une église forte, l'enseignement, les prières, les cantiques exaltent et honorent Dieu. C'est ça que Dieu mérite. C'est pas un petit Dieu. C'est le grand Dieu. Et les vrais adorateurs, ceux qui viennent avec un cœur disposé, viennent à l'Église avec la prière dans leur cœur et avec une attitude enseignable. Ça ne fait peut-être pas votre affaire, ce que je dis un matin. Mais j'espère que ton cœur est enseignable. Un cœur qui est prêt à entendre ce que le Seigneur veut te dire. C'est aussi le moment pour de la fraternité. Il n'y aura pas de coin spécial pour ceux qui ne veulent pas être achalés par personne au ciel. Ce qui rend l'Église spéciale, c'est qu'on adore Dieu ensemble avec les autres croyants. Formidable, hein? Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit des individualistes. Mais nous devons être interdépendants. Ça veut dire dépendants les uns des autres, des uns des autres. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de toi. Pas juste quand ça va mal. Hébreux 10, 25 nous encourage à ne pas abandonner notre assemblée locale. Puis souvent, on interprète ce passage-là tout croche. Regardez bien au verset 24. L'auteur dit « Veillons les uns sur les autres pour, moi j'aime ça ce mot, pour nous exciter à la charité, ça veut dire nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et là, il dit au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Ça ne veut pas dire que je quitte mon église locale. Pantoute. Ça veut dire que quand je viens ici, juste pour m'asseoir dans mon bain, puis que je m'en vais, puis tu n'entends pas parler de moi de la semaine, j'ai abandonné mon assemblée. C'est dur, hein? J'ai abandonné mon assemblée. C'est ça. Parce que regarde bien ce qu'il dit. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous. Donc, si on est parti, on ne peut pas s'exhorter. Exhortons-nous, encourageons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour, c'est lorsque le Seigneur va revenir. Parce que si on pêche volontairement, si on pêche en sachant ces choses-là, hein, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, ça veut dire que Christ est mort pour rien. Je ne suis pas choqué, là. Je vous aime. Je parle avec émotion, oui, c'est ça. Deuxièmement, sixièmement, une église forte, c'est une église qui est fidèle dans ses dons. C'est une église qui est généreuse. Une église forte vénère le Seigneur, non seulement avec la parole de Dieu et avec les chants, mais avec ses offrandes. En fait, quiconque choisit de suivre docilement le Christ, c'est un donneur, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui motive sa générosité. Je ne donne pas parce que j'ai plus d'argent. Je donne parce que le Saint-Esprit motive ma générosité. Croyez-le, quand on écoute la parole de Dieu, on comprend que c'est un privilège de contribuer au ministère et à l'œuvre de l'Église. De plus, puisque le Seigneur nous bénit, puisque le Seigneur subvient à nos besoins, puisque le Seigneur nous protège à bien des égards, on veut lui donner la première partie de notre revenu, même dans les moments difficiles. Septièmement, une Église forte, c'est une organisation qui est stratégique pour atteindre des objectifs divins. Le travail de l'Église, ce n'est pas un travail qui survient accidentellement ou dans un environnement qui est chaotique. Le travail de l'Église exige de la planification, de l'ordre pour accomplir efficacement la volonté de Dieu. La première Église a démontré qu'elle était bien organisée. Imaginez-vous, il y a 3000 nouveaux membres qui arrivent. Ça, c'est le long de la rue McGill, là. Puis ils veulent devenir membres de l'Église chrétienne évangélique de Hawkesbury. On est-tu capable d'y recevoir? Bon, pas ici, en tout cas. Là. Mais je vais aller plus loin que ça. J'ai besoin de quelqu'un pour donner le cours, le maître et son disciple. Une personne ou un couple. C'est pour une dame. Je suis genre une dame ou un couple. Qu'est-ce qui va m'aider à le donner? Bon, je comprends ceux qui sont nouveaux dans la foi. Je ne veux pas vous embarquer dans quelque chose que vous n'êtes pas certain. Mais cette personne-là veut se faire baptiser, mais avant, j'ai décidé que prendrait le cours le maître et son disciple. Ça, c'est une personne. Imaginez-vous 10 personnes qui arrivent. Dans Acte 2, versets 44 et 45, on peut lire, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous, tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. » Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on vend toutes nos bébelles et qu'on vit en communauté. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que personne ne manquait de rien. On vient à l'Église pour servir, pour adorer le Seigneur et prendre soin des autres, ça fait partie. S'assurer qu'un autre va recevoir l'enseignement biblique en dehors de la prédication, c'est un autre service. Huitièmement, les personnes qui servent, eh bien, ils servent dans la force de leurs dons spirituels. Dieu a donné à chaque croyant des dons. Des dons pour servir le corps de Christ, c'est-à-dire qui est l'Église. Romains 12, versets 6 à 8, nous dit exactement ça. On a reçu des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui... Bon, puis là, c'est continu. Le don de la prophétie, ça ne veut pas dire qu'il y a des nouvelles prophéties qui s'en viennent. Ceux qui ont le don de prêcher, c'est ça que ça veut dire. Puis encore, ça continue. Lorsqu'on agit, tous dans le domaine de notre don. Et je veux vous le dire, on en a tous reçu. L'Église est forte. Parce que tous les besoins sont satisfaits. Et c'est pour ça qu'on doit chercher, c'est quoi mon don? C'est quoi ma force? Qu'est-ce que je peux faire? Attendez pas qu'on aille vous le demander. Venez me voir, venez voir un ancien, puis dites-nous, j'aimerais ça à travailler ou avoir un ministère. Et ma force, c'est ça. Je veux aider quelqu'un, je veux participer avec quelqu'un. Donc, il faut chercher à découvrir nos dons spirituels, puis commencer à les utiliser. Pourquoi? Pour accomplir ce que le Seigneur nous a créé pour accomplir. Une église forte, c'est une église qui a un esprit uni. On est différentes personnes, des personnes de différentes races, différentes langues. On vient de milieux culturels différents, mais nous sommes tous un corps dans le Christ. Et par conséquent, on doit garder, se garder de laisser nos différences, nos préférences individuelles nous diviser. Hein, notre unité, elle est maintenue que lorsque nos problèmes, lorsque nos préoccupations sont partagées et qu'on cherche à se comprendre mutuellement. Peu importe nos différences, notre objectif devrait être d'aimer, d'aider et se fortifier ensemble. Dixièmement, un amour véritable de son prochain fait en sorte qu'une Église est forte. L'amour, c'est la colle. J'aime utiliser le mot la crazy glue. Êtes-vous déjà collé deux doigts avec la crazy glue? C'est épeurant. Tu te demandes si tout va venir avec. Mais l'amour, c'est la crazy glue qui tient l'Église ensemble. Par contre, cet amour-là n'a pas pris naissance à cause de nos intérêts mutuels. Mais cet amour-là vient de Dieu. Si nous prions pour les gens que nous n'aimons pas, naturellement, l'amour de Dieu va commencer à grandir à travers nous. On ne devrait pas aimer quelqu'un. Des fois, les affinités sont différentes. Mais on doit chercher à connaître davantage. On doit prier. Puis des fois, on fait des connaissances extraordinaires. Si on prie pour ces gens, Dieu va nous faire grandir. Rappelons-nous ceci. C'est lui, Dieu, qui nous a aimés le premier. Et enfin, une église forte, c'est une église qui a une vision pour le monde qui est perdu. Matthieu 28, 19, 20 nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Jésus-Christ a commandé, pas suggéré, commandé que cette bonne nouvelle-là qu'on a reçue, qu'on puisse la répandre partout dans le monde entier. Et quand un groupe de croyants, c'est pas un comité, là, un groupe de croyants, toutes nous autres, l'Église, est engagée dans cette tâche-là, ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va ouvrir les portes. Parce qu'il sait qu'il l'a commandé, puis il sait qu'il y en a qui vont venir. Sa volonté va être faite. Je conclue. Puisque nous, les croyants, on compose l'Église locale et universelle, c'est-à-dire que l'Église locale de Hawkesbury fait partie de l'Église universelle, l'Église de Dieu à travers le monde entier. On a tous et chacun une part à jouer pour savoir si oui ou non notre Église est forte. Je ne voudrais pas arriver au ciel et qu'on dise qu'on est une Église tiède, comme qu'on voit dans l'Apocalypse où le Seigneur l'a vomi de sa bouche. Et c'est pour ça que cette semaine, évaluons notre contribution personnelle dans notre Église. Le message va être enregistré, là, si vous voulez le réécouter, là, pour vous rappeler, là, c'est pour ça qu'on fait ça. S'évaluer personnellement, chacun, c'est quoi ma contribution? Qu'est-ce que je fais pour contribuer à la force de mon église locale? Est-ce que mon modèle de participation à l'église va faire en sorte que mon église va devenir une église forte, une église qui est féconde pour le royaume de Dieu? Ou ben donc, si mon modèle va faire en sorte que dans 5 ou 10 ans, il n'y aurait plus personne ici. Parce qu'on est plus jeune, hein? Je veux bien croire que je ne veux pas insulter personne, mais on avance tous dans l'âge. Qui est-ce qui va être là après nous autres? Toi, tu vas être seul, Mathieu? Prions Dieu. Merci Seigneur pour l'Église. Aide-nous à nous évaluer, à être honnête, à se regarder dans le miroir. Puis je sais que tu es un papa qui nous aime, qui ne nous tient pas rancune, mais que tu vas oublier le passé. Et maintenant, tu vas regarder ce qui se passe à partir de maintenant. Que ton Église ici même, que tu as bâti il y a plusieurs années, que tu continues à bâtir, puisse devenir une Église forte. Et qu'on puisse être un témoignage, une lumière dans cette ville, partout où nous sommes dans le monde entier. Qu'on puisse vraiment refléter ton amour et qu'on puisse être occupé avant ton retour, à répandre ton évangile, à répandre cette bonne nouvelle qu'on a reçue nous-mêmes. En Jésus, on te prie. Amen.